Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un regard, disons, assez critique sur la formation d'ingénieurs à l'EPFL.
Mmh. L'École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Exactement. Et notre base, c'est une lettre. Une lettre d'octobre 2025, signée par un ancien, Pascal Rulfi, qui est ingénieur en informatique.
Oui, une lettre qui va assez fort, hein, on peut dire. C'est son ressenti personnel, hein, faut le préciser.
Oui, c'est ça.
C'est basé sur son parcours, ce qu'il a observé aussi chez ses anciens camarades, sur ce que deviennent les ingénieurs qui sortent de là. Ce n'est pas une étude scientifique, mais bon, c'est un témoignage qui soulève des questions.
Tout à fait. Et donc notre objectif, c'est un peu de décortiquer ses arguments. Qu'est-ce qu'il dit sur l'expérience étudiante, sur la formation elle-même?
Et les conséquences qu'il y voit, pour les ingénieurs et même pour la société?
Voilà. Et les pistes qu'il propose, s'il en propose, le fond de sa critique, ça a l'air d'être cette tension entre l'excellence technique, poussée vraiment loin...
Et peut-être d'autres aspects, le développement personnel, l'impact plus large.
C'est ça, des compétences plus humaines ou stratégiques. Une tension qu'on voit parfois dans ce type de formation, j'imagine.
Oui, c'est assez classique pour les filières d'élite. Mais là, Rulfi l'ancre vraiment dans le contexte PFL, tel qu'il l'a vécu, ou en tout cas tel qu'il s'en souvient et le perçoit encore aujourd'hui.
Bon. Alors, allons-y. Son point de départ, c'est son propre vécu. Et d'emblée, il dit ne pas ressentir de fierté particulière. Il parle même de mauvais souvenirs.
Ah oui, quand même.
Oui. 10 ans d'études techniques, il compte le gymnase technique avant, le tech et le poly, qu'il décrit comme exigeantes et rébarbatives.
10 ans, c'est long.
Et il raconte avoir découvert plus tard, en parlant avec d'anciens camarades, que ce sentiment, ben, il n'était pas seul à l'avoir.
Ce mauvais souvenir partagé... C'est un indice pour lui. Il note d'ailleurs que la plupart de ses anciens camarades ne remettent jamais les pieds sur le campus.
Mmh.
Et il trouve aussi que l'association des anciens, l'alumni EPFL, elle a du mal à mobiliser. Il compare ça au réseau très puissant des universités américaines, les Ivy League par exemple.
Il y voit quoi? Une forme de rejet?
Peut-être pas un rejet frontal, mais disons un lien affectif moins fort, moins construit avec l'alma mater. Une distance en tout cas.
Et ce vécu difficile, ce ne serait pas juste un souvenir d'ancien combattant, si j'ose dire. D'après ses discussions avec des étudiants actuels...
Ah, il a gardé contact.
Apparemment. Et les mots qui reviennent, ce seraient toujours les mêmes. Incertitude, stress, vie monacale, burn-out.
Ouch.
Et il s'étonne, lui, de ne pas entendre parler de plaisir, d'accomplissement, de passion. Sa phrase, c'est « À 20 ans, c'est un peu dommage ».
Ben oui, ça interpelle. C'est un point central de sa critique de départ, j'ai l'impression. Si l'excellence se paie si cher sur le plan humain...
La question du sens se pose.
Exactement. Le sens, la soutenabilité de l'effort. Est-ce qu'on forme des experts brillants, mais déjà un peu usés, un peu désenchantés, avant même de démarrer? C'est un peu ça, la question sous-jacente.
Et de ce constat sur le vécu, il passe à une interprétation. Pourquoi ce traitement rugueux, comme il dit? Il rappelle le statut des EPF en Suisse, fédéral, pas cantonal, comme les universités, avec une mission stratégique pour le pays, pour l'innovation, la compétitivité.
Oui, un rôle clé dans l'écosystème suisse.
Et c'est là qu'il sort cette image assez frappante.
Mmh.
Les EPF formeraient les soldats de l'industrie. Il pense que ça explique un certain esprit militaire.
Soldats de l'industrie, c'est intéressant comme métaphore. Et il la développe comment ?
Il compare avec d'autres professions.
D'accord.
Les médecins, les avocats. Il dit que chez eux, il y a un esprit de corps très fort. Ils se serrent les coudes, même s'ils sont concurrents.
Une défense collective de la profession, oui.
Alors que l'ingénieur formé à cette école militaire, lui, il développerait une loyauté avant tout à son employeur ou à la solution technique elle-même.
Pas à la profession en tant que telle, ni aux autres ingénieurs.
C'est ça, moins. Il est décrit comme prêt à aller au champ de bataille, à prendre une volée de plomb pour la mission technique de l'entreprise.
Donc dévoué à la tâche, mais peut-être isolé.
C'est la conséquence qu'il en tire. Sans cet esprit de corps, l'ingénieur devient, selon ses mots, un instrument corvéable à merci.
C'est dur.
Il pense aussi que la complexité de son métier, difficile à expliquer aux non-initiés, ça le dessert quand il faut défendre ses idées ou ses intérêts. Au final, le pouvoir, le vrai pouvoir de décision, lui échapperait.
C'est une vision assez pessimiste de la place de l'ingénieur. L'idée que la maîtrise technique, qui devrait logiquement donner du pouvoir, pourrait en fait isoler, rendre plus vulnérable dans les jeux de pouvoir de l'entreprise ou de la société. C'est un peu ça?
Exactement. L'ingénieur serait focalisé sur le comment faire et il laisserait à d'autres le pourquoi faire et surtout le qui décide.
D'accord. Ce qui nous amène naturellement aux conséquences plus larges que Ruffy voit à ce modèle.
Oui. Il critique une vision de la société qui, au fond, se contenterait bien d'avoir des ingénieurs super compétents pour faire tourner la machine, mais en silence.
Sans faire de vagues.
Voilà. Dans ce schéma, la direction, la stratégie, les objectifs, et il ajoute les lauriers de la prospérité. Ça reviendrait toujours au même profil, politique, financier, juriste.
Et il trouve ça problématique ?
Oui, il dit que c'est une vision adaptée à une société d'exploitants ou de rentiers, une société qui gère l'acquis, mais qui a du mal à se réinventer, à innover vraiment.
Et il identifie des failles précises dans ce fonctionnement.
Il en voit au moins deux. La première, c'est le risque quand ceux qui décident, souvent avec une formation financière ou de gestion, ne comprennent pas vraiment les systèmes techniques complexes qu'ils supervisent.
Ah oui, le risque de déconnexion entre la direction et la technique ?
C'est ça. Il prend l'exemple des problèmes de gouvernance chez Boeing, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Pour lui, c'est un peu l'illustration de ce qui arrive quand les impératifs techniques sont mal compris ou ignorés en haut lieu.
D'accord, le risque de catastrophe technique ou industrielle liée à une mauvaise gouvernance. Et la deuxième faille ?
La deuxième, qu'il juge peut-être encore plus grave, c'est l'incapacité de ces gestionnaires rentiers, comme il les appelle, à vraiment saisir la portée des grandes innovations.
Il pense à quoi ? L'informatique ? Le numérique ?
Oui, l'IA aussi. Il soutient que l'Europe, en particulier, a du mal à s'adapter à profiter de ces vagues technologiques.
Pourquoi ?
Parce qu'elle serait freinée par la bureaucratie, par la défense de petits intérêts.
Et parce que les décideurs n'auraient pas cette compréhension profonde de la technologie qui change le monde.
C'est son argument. Il ne voit pas les enjeux réels ou trop tard.
Donc, le manque que Ruffy pointe, c'est un manque de profil technique dans les hautes sphères de décision.
Oui, clairement. Une sous-représentation des esprits formés à l'analyse technique, mais aussi capables de vision stratégique dans la gouvernance des entreprises et des États.
Et pourquoi ils y sont pas, ces ingénieurs ?
Selon lui, ils sont trop absorbés par la technique. Et puis, pas assez formés, voire pas du tout, au jeu du pouvoir, de la stratégie, et de l'influence. Il dit même qu'ils ont tendance à voir ça comme des futilités.
Des choses pas sérieuses comparées à la science et à la technique pure.
Voilà. Et il insiste, c'est dommageable à deux niveaux. Pour l'ingénieur lui-même, qui limite son propre impact.
Et pour la société.
Et pour la collectivité, oui, qui investit énormément dans ses formations d'excellence, mais qui ne récolte pas tous les fruits possibles en termes de leadership et de vision stratégique. C'est un peu un gaspillage de potentiel selon lui.
D'accord. Et comment il explique ça ? Il revient à la formation elle-même ?
Oui, il examine ce qu'il manque, selon lui, dans la formation. Il reprend le triptyque classique, savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être.
Ah oui, les trois savoirs.
Et son diagnostic est assez tranché. Pour lui, les formations techniques, comme le PFL, elles demandent tellement d'engagement qu'elles se concentrent quasi uniquement sur le premier, le savoir-faire.
C'est exactement ça.
Le savoir-faire technique absorbe tout et il reste peu de place, peu d'énergie pour les deux autres dimensions.
Et il décrit comment ça se manifeste, ce manque de savoir-vivre ou de savoir-être ?
Il décrit un réflexe typique de l'ingénieur formé comme ça. Face à un problème, une critique, une opposition, sa tendance serait de se replier sur la technique, d'accumuler encore plus de connaissances techniques.
Comme une sorte de refuge, une carapace.
Oui. Alors que Ruffy soutient que le savoir-vivre, comprendre les gens, les réseaux, l'intelligence sociale, quoi, et le savoir-être, se connaître soi-même, savoir se positionner, influencer.
Sont souvent la clé pour faire avancer les choses.
Exactement. Pour faire aboutir un projet complexe, défendre une idée ou juste naviguer dans une organisation. Des compétences cruciales qui seraient négligées.
Et il met en cause qui ? L'institution ? Le corps enseignant ?
Il est assez critique envers le corps enseignant, oui. Il parle d'une forme d'autisme scientifique. Des profs brillants dans leur domaine, mais peut-être peu enclins à ouvrir les étudiants à ces dimensions extra-techniques.
C'est une critique forte de la culture académique qu'il décrit.
Oui, et il va jusqu'à faire un lien entre cette hyper-focalisation technique et ce qu'il perçoit comme un manque de leadership technologique en Europe, avec un risque de déclassement à long terme.
L'idée que l'hyperspécialisation, même si elle crée des experts pointus, pourrait en fait limiter leur vision globale et leur capacité à interagir avec le reste du monde.
C'est un peu ça. Freiner la traduction de l'expertise en influence réelle, en leadership qui transforme les choses.
D'accord. Alors, face à ce constat assez sombre, qu'est-ce qu'il propose ? Quel est le défi, selon lui ?
Le grand défi, c'est de faire en sorte que tout ce potentiel incroyable des ingénieurs formés par les EPF ne reste pas juste dans la technique pure.
Qu'il percole mieux dans la société ?
Oui, qu'il se diffuse plus largement, plus efficacement. Il utilise l'image d'un trou dans la raquette. L'expertise est là, mais elle n'atteint pas toujours les endroits où elle serait la plus utile.
Il donne des exemples ?
Il mentionne le fonctionnement parfois archaïque des administrations publiques, qui contraste selon lui avec la concentration d'expertise technique disponible dans le pays, comme si ça ne se connectait pas.
Et ce trou dans la raquette, il le lie à quoi ?
À ce qu'il voit comme une désertion de la gouvernance par les scientifiques et les ingénieurs. Il prend l'exemple de Genève où il dit qu'ils sont très peu présents dans les instances politiques.
Par manque d'intérêt ou par mépris pour la politique ?
Un peu des deux, selon lui. Il reconnaît que le PFL a essayé des choses. Hein. Il mentionne l'ancien cours « Hommes, technique, environnement », les modules sur l'entrepreneuriat.
Mais il se doute de leur impact réel.
Il semble penser que ça reste un peu à la marge, que ça ne change pas fondamentalement la culture et les compétences transversales des étudiants.
Alors, concrètement, il préconise quoi ?
Il veut une intégration beaucoup plus sérieuse, et plutôt, dès le bachelor, de matières non techniques.
Lesquelles, par exemple ?
Il cite la sociologie de l'influence, de la prise de décision, l'analyse des réseaux sociaux au sens de la science sociale, hein, pas juste Facebook.
Comprendre comment fonctionnent les réseaux humains, le pouvoir.
Voilà, les grands modèles économiques aussi. Et il insiste, il faudrait enseigner ces sujets avec la même rigueur intellectuelle que les maths ou la physique, pas comme des matières secondaires.
Une vraie place dans le cursus.
Oui. Il note que certains masters, comme en architecture ou en systèmes urbains, ont déjà une approche moins purement technocentrée. Mais ça reste limité.
C'est intéressant. Il veut élargir l'horizon intellectuel, en somme.
C'est ça. Il utilise même l'anecdote de Steve Jobs et de son cours de calligraphie au Reed College.
Ah oui, l'histoire connue.
Un truc qui semblait n'avoir aucun rapport avec l'informatique, mais qui aurait été clé pour le design du Mac. Et Rolfi en tire une conclusion assez provocatrice.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit « La diversité crée l'expertise, l'unicité ne crée que des spécialistes, et les spécialistes ne créent pas de valeur. »
Oula ! C'est une affirmation forte, ça. Donc pour lui, l'ultra-spécialisation, ça limite la création de valeur ?
C'est ce qu'il suggère, et ça l'amène à demander une refonte assez profonde du plan d'études. Il affirme que, dans ses grandes lignes, cet équilibre n'aurait pas beaucoup bougé en 40 ans, à part les mises à jour techniques évidentes.
Il appelle à repenser fondamentalement l'équilibre de la formation.
Oui. L'objectif final qu'il formule, ce serait de préparer les ingénieurs pas seulement à être excellents dans un rôle technique, précis, remplir des cases dans les entreprises, dit-il.
Mais aussi à entreprendre au-delà de ce qui existe.
Exactement. À devenir des acteurs capables de créer de la valeur ajoutée plus largement, y compris au niveau de la société.
Bon, si on essaie de résumer sa pensée, c'est une critique qui part d'une expérience étudiante vécue comme difficile, stressante, manquant un peu de sens, qui pointe ensuite une formation trop focalisée sur le savoir-faire technique au détriment d'autres compétences, le savoir-vivre et le savoir-être.
C'est ça.
Et qui en voit les conséquences, hein, des ingénieurs peut-être moins épanouis et moins influents qu'ils pourraient l'être, et une société, une Europe, qui peinerait à innover et à bien se gouverner faute d'un leadership technique plus affirmé.
C'est bien résumé. C'est le regard d'un ancien, plusieurs années après. Subjectif, bien sûr, mais ça soulève des points importants sur l'équilibre à trouver dans ces formations d'excellence.
Tout à fait. Et au fond, cette analyse, elle nous ramène à une question plus large qui dépasse le PFL. C'est... comment ces institutions qui forment l'élite technique, comment peuvent-elles faire cohabiter cette quête indispensable d'excellence scientifique
avec le développement de compétences humaines, sociales, stratégiques, qui sont tout aussi cruciales aujourd'hui.
Voilà. Comment former non seulement des experts qui maîtrisent la complexité technique, mais aussi des leaders qui comprennent la complexité humaine et qui peuvent guider les transformations que la technologie apporte.
Autrement dit, au-delà des classements et des publications scientifiques, quels seraient les vrais indicateurs de réussite pour une formation d'ingénieur au XXIe siècle, une formation qui serve au mieux l'individu, mais aussi la société tout entière.
C'est une vaste question.
Effectivement. Une question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse.